Bonsoir, bienvenue dans votre bulletin géopolitique pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2025. Nous commençons tout de suite avec le Moyen-Orient. En Syrie, la loyauté des nouveaux commandants de l'armée envers les pays qui les soutenaient auparavant financièrement et militairement, constitue désormais un défi majeur pour le nouvel établissement militaire, nous explique Syria Direct. En effet, la nouvelle armée syrienne voit nommer à sa tête de nombreux anciens commandants de factions d'opposition qui étaient soutenus à l'époque par la Turquie et qui reçoivent actuellement des grades militaires élevés et des postes de direction de haut niveau dans les ministères de la Défense et de l'Intérieur du pays. Ces nominations et commissions militaires ne sont pas réservées aux commandants de l'armée nationale syrienne. De nombreux autres, y compris des combattants étrangers, obtiennent des grades et des postes de direction. Cependant, la promotion de personnalités affiliées à Ankara soulève des questions quant à leur allégeance. La nouvelle armée de leur pays, ou le pays qui les a longtemps soutenus, la Turquie, à qui ira cette allégeance? Cela suscite également des inquiétudes quant à l'ampleur de l'implication turque en Syrie. L'empreinte d'Ankara dans le pays s'est considérablement accrue depuis la chute d'Assad, grâce notamment à sa présence militaire et à la signature d'accords militaires de défense et économique à long terme avec la nouvelle direction du pays. Ces dernières années, la plupart des commandants de l'armée nationale syrienne n'ont pas hésité à faire preuve de loyauté envers la Turquie, en hissant des drapeaux turcs par exemple, et en rencontrant des dirigeants des partis nationalistes turcs. Cette loyauté, auparavant justifiée par le besoin de financement et d'armes de l'ANS face à l'ancien régime d'Assad, ouvre désormais la voie à des intrusions et des ingérences sécuritaires dans le nouvel État syrien. La mission officielle de dizaines de postes d'observation turcs répartis dans le nord-ouest de la Syrie a pris fin avec la chute du régime d'Assad en décembre dernier. Pourtant, Ankara maintient actuellement ses positions, certaines effectuant de nouvelles missions de reconnaissance ainsi que des mouvements militaires limités. L'une des nouvelles missions de ces postes est de constituer un centre de mobilisation des forces militaires turques en cas de besoin, plutôt que de mobiliser des forces depuis l'intérieur de la Turquie. Et d'autant plus depuis que les forces présentes à ces points sont équipées et préparées pour intervenir en Syrie. On s'attend désormais à ce que la Turquie redistribue donc ses points d'observation en Syrie et les transforme de plus en plus en bases militaires fixes. La prochaine étape consisterait à entraîner et armer l'armée syrienne, ce qui devrait contribuer à stabiliser le nouveau régime, mais également à accroître encore la mainmise de la Turquie dans le pays. C'est donc un enjeu aujourd'hui et qui est perçu, y compris du côté du pouvoir syrien, pour lequel peut-être ce soutien turc devient d'ores et déjà encombrant. La compagnie pétrolière nationale libyenne NOC a signé un protocole d'accord avec la compagnie pétrolière publique turque TPAO pour mener une étude géologique et géophysique de 4 zones offshore, a annoncé mercredi la NOC, donc cette compagnie pétrolière nationale libyenne. La NOC a indiqué que l'accord avait été signé à Istanbul par les dirigeants des deux sociétés, n'a pas fourni d'autres détails. Mercredi également, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a réitéré que le protocole maritime turco-libyen était inacceptable, illégal et sans fondement. En effet, vous vous souviendrez, il y a quelques années, il y avait eu cette carte justement partagée d'un accord entre les Turcs et la Libye et qui semblait empiéter totalement, en fait, faire comme si la Grèce n'existait pas et qu'elle n'avait pas, elle aussi, de zone économique exclusive. Athènes maintient cette position en grande partie parce que donc l'accord ne tient pas compte de la présence de la Crète. Les cartes turques et libyennes attribuent la majeure partie de la zone maritime du sud de l'île grecque à la Libye et la plus petite partie à la Turquie. Selon Donald Trump, les conditions pour une trêve à Gaza sont réunies côté israélien, malgré l'annonce le 1er juillet d'une intensification de l'offensive militaire israélienne dans l'enclave. Le président américain a exhorté le Hamas à accepter une ultime proposition de cessez-le-feu, bientôt soumise, après qu'Israël a accepté d'en finaliser les termes. Ce même jour, des bombardements et tirs israéliens ont tué 20 personnes, selon la défense civile de Gaza. En Irak, l'effondrement du régime d'Assad, c'est le site Arab Center qui a un article très complet à ce sujet, très intéressant. L'effondrement donc du régime d'Assad a troublé les responsables irakiens. Malgré les frictions dans les relations bilatérales au cours du mandat de l'ancien premier ministre irakien Nouri al-Maliki, ministre de 2006 à 2014, et qui notamment avait souffert de ces allégations en 2009 selon lesquelles la Syrie abritait des terroristes étrangers responsables d'avoir mené des attaques meurtrières en Irak. C'était le cas autour notamment de C'était avant, pardon, l'affaire de l'État islamique, hein, c'était antérieur, c'était en 2009. Bagdad a ensuite finalement accepté d'intégrer l'axe de la résistance dirigé par l'Iran et soutenu par Assad dans la guerre civile syrienne qui a commencé en 2011. L'Irak a également rejoint Al-Assad pour combattre l'État islamique après son ascension en Irak et en Syrie quelques années plus tard, lorsque le groupe djihadiste a occupé de vastes territoires dans les deux pays. Sur la base de cette cause commune avec Damas dans les combats contre l'État islamique et l'alignement de l'Irak sur l'Iran, l'actuel Premier ministre, Machi al-Soudani, avait réaffirmé le soutien de l'Irak à Assad une semaine à peine avant que la coalition rebelle, dirigée par Ayatollah al-Sham, ne renverse le régime baasiste à Damas. Et donc, à nouveau, tension entre la Syrie et l'Irak. Et quelques jours avant la chute d'Assad, le gouvernement syrien du salut régional, aligné sur le HTS, avait cherché d'ores et déjà à démêler les tensions pour préparer la chute d'Assad avec le dirigeant irakien en publiant une déclaration soulignant les liens historiques profonds entre les Syriens et les Irakiens et en exhortant les dirigeants irakiens à ne pas percevoir l'offensive rebelle contre Damas comme une menace. Malgré cette sensibilisation, l'Irak a maintenu sa vision à propos de Shara, l'actuel président syrien, et de tous les autres rebelles qui combattent le régime d'Assad en tant que terroriste. Alors que le régime d'Assad était en train de vaciller, quelques 200 militants irakiens pro-Assad sont entrés en Syrie pour défendre le régime d'Assad, mais la majeure partie des factions armées chiites irakiennes ne l'a pas fait, préférant rester du côté irakien de la frontière pour protéger l'Irak de tout débordement déstabilisateur des événements en Syrie. Après la prise de contrôle par Ayatollah al-Sham de Damas, les dirigeants irakiens se sont rapidement adaptés à la réalité de la nouvelle Syrie. De hauts responsables irakiens ont réadapté leur discours. Le rapatriement des soldats syriens qui avaient fui de l'autre côté de la frontière en Irak et la visite du chef des services de renseignement irakien Hamid al-Shatri à Damas, moins de 3 semaines après la chute d'Assad, ont illustré l'engagement pragmatique de Bagdad avec les autorités syriennes du régime post-Bass. Les échanges diplomatiques soutenus et les ouvertures mesurées du gouvernement d'Al-Shara ont renforcé cette approche, car les minorités religieuses et ethniques de la Syrie, le nouveau régime syrien cherche à rassurer l'Irak sur son engagement justement à protéger la minorité ethnique et notamment la minorité chiite. Donc des inquiétudes de Bagdad ont été atténuées à ce propos. Actuellement, il y a plusieurs factions dont les intérêts sont contradictoires en Irak et qui dirigent un petit peu la politique irakienne vis-à-vis de la Syrie. Il y a d'abord l'État irakien lui-même, qui est donc dirigé par le Premier ministre al-Soudani, qui est favorable avec l'alignement de Bagdad sur le Qatar et l'Arabie Saoudite pour soutenir la normalisation de la Syrie. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que l'État irakien lui-même est dirigé par des dispositions plutôt nationalistes, et ça renvoie à ce que j'avais déjà dit, qui consiste à s'aligner avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, et donc les contrepoids de l'Iran dans la région. Les factions chiites alignées sur l'Iran, elles, y compris les milices appartenant à l'axe de la résistance, se méfient quant à elles d'Al-Shara. De nombreux acteurs chiites pensent que le HTS, Ayatollah al-Sham, présente des similitudes avec l'État islamique. Et depuis la chute d'Assad, ces groupes considèrent l'accession au pouvoir d'Al-Shara comme un complot de changement de régime organisé, soutenu par les États-Unis, l'État hébreu et la Turquie pour faire évoluer l'équilibre régional des pouvoirs au détriment de l'Iran. Et donc, selon ce récit, Al-Shara est finalement une marionnette des Américains, des Juifs et des Turcs. C'est ça l'idée. Les factions sunnites de l'Irak, troisième acteur, qui soutiennent principalement la normalisation des relations de Bagdad avec l'après-Basse en Syrie. Leur position s'aligne donc sur celle aussi des capitales du Conseil de coopération du Golfe, c'est-à-dire là aussi le Qatar et l'Arabie Saoudite. Donc ce mouvement en fait des factions sunnites sont alignés avec la conception de l'État irakien encore qui est menée par al-Soudani. Et donc l'idée c'est là aussi de rapprocher l'Irak des États arabes et d'affaiblir l'influence de l'Iran. Et enfin un dernier acteur, les Kurdes, du gouvernement régional du Kurdistan, qui, eux, soutiennent l'amélioration des liens entre l'Irak et la Syrie, et pensent notamment que ça devrait permettre d'améliorer la situation des Kurdes de Syrie également. Et la concurrence turco-iranienne dans la politique kurde est un facteur important dans les positions de divergence, divergentes des divers partis kurdes sur la question. En effet, le chef du Parti démocrate du Kurdistan, le KDP, est favorable, lui, à la Turquie. En revanche, Bafel Jalal Talabani, qui est président de l'Union patriotique du Kurdistan, a appelé à une position plus prudente et plus visible à l'égard de la Syrie post-Assad. Pardon. Les prochaines, ça c'est très important, les prochaines élections parlementaires en Irak sont prévues pour le 11 novembre 2025. On ne sait pas encore quel rôle la question des relations de l'Irak avec la Syrie post-Assad jouera dans les résultats du vote. La poursuite des hostilités israélo-iraniennes pourrait pousser les questions liées à la Syrie en marge de la campagne, mais si le cessez-le-feu tient, la question du rôle de l'Irak dans l'avenir de la Syrie pourrait émerger comme une question importante de la politique étrangère irakienne, avec des candidats qui présenteraient des visions concurrentes pour cette politique régionale. Les principales préoccupations de l'Irak sont d'une part certes la lutte contre le terrorisme et la sécurité des frontières à cause du traumatisme laissé par l'EI qui est encore très important, mais c'est également la question d'endiguer le trafic transfrontalier de drogue puisque c'est une priorité pour les deux pays. Hein, vous savez, j'en ai parlé régulièrement, que sous Assad, la Syrie est pratiquement devenue un narco-État, notamment spécialisé dans l'exportation de la drogue des djihadistes, hein, le Captagon. Et l'Irak est également impliqué dans ces trafics. Il y a véritablement une route criminelle à ce propos de là. Mais il y a aussi des questions énergétiques avec l'oléoduc Kirkuk-Banias qui n'est pas opérationnel depuis l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003. Et donc, ça permettrait de relier les gisements pétroliers irakiens de Kirkuk et la Méditerranée. Ça peut être intéressant notamment pour la fourniture de pétrole de l'Europe. La promotion de relations stables et constructives aiderait aussi à gérer l'approvisionnement en eau, qui est un souci important pour l'Irak, hein, qui dépend de l'Euphrate et du Tigre. Et où là, on est sur une relation à trois avec la Syrie et la Turquie pour gérer ça. Donc, une entente entre l'Irak et la Syrie et la Turquie, comme troisième acteur, faciliterait ça. Et enfin, la dernière priorité, donc, c'est celle des liens économiques, puisque le rétablissement du commerce bilatéral au niveau d'avant 2011 serait bénéfique pour l'économie irakienne. D'autant plus que comme les sanctions occidentales contre la Syrie sont maintenant levées, ça ferait des opportunités importantes pour l'Irak d'approfondir ses liens commerciaux, notamment dans des secteurs comme l'agriculture, les produits pharmaceutiques et les textiles, particulièrement prometteurs. Voilà quels sont les... J'ai trouvé cet article extrêmement synthétique, extrêmement intéressant, donc je voulais vous le partager, surtout parce que finalement je parle très régulièrement du rôle, à mon avis, pivot que va jouer l'Irak dans la recomposition de la région, puisque c'est un peu le barycentre finalement entre l'Arabie Saoudite, Israël, la Turquie et l'Iran, et vraisemblablement le prochain endroit, malgré tout, où il devrait y avoir une forme d'agitation au détriment de l'Iran, mais j'en ai suffisamment parlé, je n'y reviens pas. Les responsables américains affirment que la guerre de 12 jours entre les deux pays, entre l'Israël et l'Iran, Israël, l'Iran et les États-Unis qui ont participé à la fin, et donc qui ont pris fin avec un cessez-le-feu le 24 juin, a permis d'obtenir des perspectives d'efforts de paix plus larges dans la région. Dimanche, un diplomate américain de haut rang a appelé les accords de paix avec la Syrie a appelé à des accords de paix avec la Syrie et le Liban à la suite du cessez-le-feu autour d'Israël. Tom Barak, ambassadeur des États-Unis en Turquie, qui est également envoyé spécial en Syrie, a déclaré que le président syrien Ahmed al-Shara a indiqué qu'il ne déteste pas l'État hébreu et veut la paix sur cette frontière. Je pense que cela se produira aussi avec le Liban, c'est une nécessité d'avoir un accord avec l'État hébreu, a-t-il ajouté. Les pressions ont été exercées sur le gouvernement israélien pour mettre fin à son offensive dans la bande de Gaza, j'en ai parlé tout à l'heure. Tout le monde commence à se diriger vers les accords d'Abraham, d'autant plus que la situation de Gaza se dissipe, a déclaré Tom Barak. Pas étonnant, les accords d'Abraham, c'est un peu le bébé de Donald Trump dans la région, et donc il cherche à les pousser au maximum, c'est très clair. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a affirmé lundi que son pays était intéressé par une normalisation de ses relations avec la Syrie, soulignant toutefois qu'Israël n'avait pas l'intention de restituer la partie du Golan syrien qu'il a conquise en 1967 et annexée en 1981. Selon un haut responsable américain cité par le média émirati The National, le Hezbollah s'est abstenu de participer à la récente guerre Iran-Israël à la demande de Téhéran. Pendant les 12 jours du conflit, la tension était notamment portée sur une possible intervention du parti chiite contre Israël en soutien à l'Iran. On avait assez rapidement su que ça serait a priori pas le cas. Et il semble que Téhéran aurait en réalité prié le groupe de rester en dehors du conflit pour préserver ce qui restait de sa force, une décision influencée par des pressions internes et externes, alors que le Hezbollah apparaît de plus en plus affaibli, mais ce qui semble traduire l'idée que l'Iran compte conserver ce levier et éventuellement en jouer encore à l'avenir. Et cela alors que précisément depuis la création de sa branche armée en 1982 lors de l'invasion israélienne qui avait conduit à l'occupation de Beyrouth et d'un quart du Liban, le Hezbollah n'a jamais été aussi isolé concernant ses armes et la détention de ses armes. Il est l'unique milice exclue du désarmement post-guerre civile en 1990 et bénéficie d'une sorte de légitimité consacrée par l'accord de Taif pour ses actions contre l'occupation israélienne. Cette légitimité, bien que jamais unanime, était renforcée dans les années 90 par un soutien populaire et une quasi-symbiose avec les autorités, notamment après le retrait israélien du Sud-Liban en 2000. Cependant, les revers subis lors de la guerre contre Israël de l'année dernière et la chute du régime de Bachar al-Assad ont coupé la voie d'approvisionnement iranienne et bouleversé les équilibres internes et régionaux. Au Liban, aujourd'hui, la réalité, c'est ce que nous enseigne RFI aujourd'hui, le pouvoir est de moins en moins complaisant envers le Hezbollah, et surtout, on le voit dans l'ensemble, semble-t-il, du clivage politique. Pour la première fois depuis 1990, le discours d'investiture du président Joseph Aoun, le 9 janvier 2025, n'a pas évoqué le droit à la résistance armée et plaidé au contraire pour le monopole de l'État sur les armes. Donc, étape de savoir à quelle étape de construction nationale en est le Liban, je suis pas sûr, mais clairement, si on revient à un monopole de l'État sur les armes, ça peut commencer à ressembler à quelque chose. Des figures politiques autrefois nuancées, comme Walid Jumblatt, ont rejoint les appels au désarmement. Le 26 juin 2025, le leader druze a estimé que l'Iran avait perdu la guerre et réclamé que le Hezbollah remette ses armes à l'État. Gebran Bassil, le chef du courant patriote libre et ancien allié de l'Hezbollah, a suivi le 28 juin en déclarant que les armes du Hezbollah, qui n'étaient pas adaptées face à la technologie israélienne, n'étaient plus un outil de dissuasion et donc qu'il fallait les désarmer. Et d'autres alliés historiques se montrent plus discrets en évitant de défendre l'arsenal du pays. Donc on voit clairement qu'il y a un basculement politique à l'intérieur du pays qui rend d'autant plus probable que la pression au désarmement sur le Hezbollah, la question c'est est-ce que cela pourrait se faire pacifiquement, c'est naturellement ce que cherche à faire le nouveau président Joseph Aoun et c'est son défi. L'armée israélienne a déclaré mercredi avoir arrêté lors d'un raid dans le sud de la Syrie les membres d'une cellule terroriste soutenue par l'Iran. Un communiqué militaire précise qu'une opération nocturne a permis de capturer plusieurs individus et de saisir des armes et des grenades. Selon la télévision d'État syrienne, une patrouille israélienne comprenant 8 véhicules et environ 40 soldats a appréhendé 3 personnes dans le village d'Al-Basali, dans la région de Kounetra, sur le plateau du Golan. Donc, y compris en Syrie, l'Iran continue de travailler, il ne s'est pas tout à fait effondré. Et d'ailleurs, il reste assertif, puisque mercredi dernier, l'Iran a officiellement cessé de coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, après avoir intensifié ses critiques contre l'agence depuis la récente guerre avec Israël. Le 25 juin, au lendemain du cessez-le-feu, le Parlement iranien a largement adopté une loi suspendant cette coopération. Les autorités iraniennes ont dénoncé le silence de l'AIEA face aux frappes israéliennes et américaines sur des sites nucléaires iraniens. Le 26 juin, dans une vidéo enregistrée depuis un lieu inconnu, il est réapparu, c'est sa troisième prise de parole depuis le début du conflit, Ali Khamenei, guide suprême de la révolution et de la République islamique d'Iran, a revendiqué une victoire de l'Iran contre Israël et les États-Unis, louant l'unité du peuple iranien. Il a dit, je cite, « Malgré ses prétentions, le régime sioniste a été pratiquement terrassé et écrasé par les coups de la République islamique ». Et il a affirmé également que Donald Trump exagérait de manière excessive les effets des frappes du 21 et du 22 juin. Donc voilà, la semaine dernière j'avais parlé du fait qu'on ne le voyait plus, il est réapparu. Et Mohsen Rezaei, ancien commandant des gardiens de la Révolution, aurait quant à lui révélé lors d'une conversation téléphonique un plan qui prévoyait le départ de l'ayatollah Ali Khamenei, de ses enfants et de leur famille vers le Venezuela, allié de l'Iran, en cas de dégradation de la situation ou d'une tentative de coup d'État en douceur au sein du régime, c'est-à-dire qu'il y aurait une partie du régime qui ferait défection. Ce qui n'est toujours pas exclure, selon moi, au contraire, je pense que c'est ce vers quoi on va. Selon l'article 110 de la Constitution iranienne, seul le guide suprême peut déclarer la guerre ou mettre fin à un conflit. Pourtant, le communiqué du Conseil supérieur de la sécurité nationale, qui a annoncé le cessez-le-feu avec Israël, omet toute mention d'Ali Khamenei, son nom n'apparaissant ni explicitement ni implicitement. Cette absence a suscité de nombreuses spéculations, certains allant jusqu'à évoquer la mort du guide suprême en raison de sa disparition prolongée de la scène publique pendant plusieurs jours. On sait maintenant que ce n'est pas le cas puisqu'il a parlé, mais cela laisse quand même un petit doute juridique sur cette question. Vous savez que je pinaille souvent sur ce genre de questions, c'est ma petite faiblesse, le droit constitutionnel, mais enfin c'est intéressant que la décision, on savait qu'il avait délégué une partie de ses pouvoirs précisément au Conseil supérieur de la sécurité nationale. Est-ce qu'il va réussir à récupérer ses pouvoirs ou est-ce que on a déjà basculé dans une forme de collégialité, et ce qui serait déjà une première évolution du régime, c'est intéressant. On va dans le Caucase, où au cours des derniers jours, l'Azerbaïdjan et la Russie sont engagés dans une rare escalade par des mesures judiciaires les uns contre les autres. Et les relations entre les deux pays assez clairement atteignent un nouveau creux. Le directeur exécutif et rédacteur en chef de l'agence de presse publique Sputnik a été placé mardi en détention à la suite d'une descente de la police de Bakou, membre de la presse affiliée aux médias d'État russe. Sputnik est appartient à la presse affiliée aux médias d'État russe et donc ceci semble une escalade rapide entre les deux pays, qu'un tel personnage soit arrêté de la sorte. L'agence azerbaïdjanaise APA a rapporté précédemment que deux employés du service fédéral de sécurité russe, le FSB, faisaient partie des sept personnes détenues après la descente dans les bureaux de Sputnik appartenant à Rossiya Segodnia, qui est à son tour possédée et exploitée par le gouvernement russe. Donc il y a vraiment une attaque, semble-t-il, forte des services azerbaïdjanais contre une partie de la presse russe en Azerbaïdjan. Un autre média russe dirigé par l'État, Rubtli, a rapporté également plus tard que l'un de ses rédacteurs avait été arrêté après avoir tenté de filmer l'action de la police au bureau de Sputnik à Bakou. Donc lui, il essayait de filmer l'arrestation de celui de Sputnik et il a été arrêté aussi. Les tensions entre l'Azerbaïdjan et la Russie se sont aggravées donc ces derniers jours. Après la détention de plus de 50 Azéris à Ekaterinbourg, donc c'est la riposte russe après la détention de 50 Azéris par le FSB vendredi dernier. Deux personnes, les frères Hussein et Ziyadine Safarov, sont mortes au cours des raids et trois autres ont été grièvement blessés. La Russie a affirmé que les arrestations s'inscrivaient dans le cadre d'une enquête sur un meurtre au début des années 2000. La chaîne de télévision Anewa, basée en Azerbaïdjan, a déclaré que la nouvelle des raids meurtriers suscitait l'indignation et appelait la justice dans ce que les Azerbaïdjanais décrivent comme des abus et du profilage ethnique. Le ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan a condamné l'opération comme brutale et injustifiée et a appelé les autorités russes à mener une enquête urgente sur l'affaire et à traduire en justice les auteurs de cette violence inacceptable dès que possible. En outre, l'Azerbaïdjan a convoqué l'envoyé de la Russie à Bakou pour protester contre les raids meurtriers et a également annulé tous les événements culturels prévus par l'État russe et les institutions privées pour protester contre les raids à Ekaterinbourg. Les relations donc se sont très fortement refroidies. Elles avaient commencé à le faire après qu'un avion de ligne azéri se soit écrasé au Kazakhstan en décembre dernier, ce qui avait tué 38 personnes sur 67 à bord. Et les enquêtes sur l'incident avaient révélé que le vol 8243 de la compagnie aérienne d'Azerbaïdjan avait été en fait abattu par la défense aérienne russe, vous en souviendrez. Le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a accusé la Russie d'essayer de dissimuler l'incident pendant plusieurs jours. Le président russe Vladimir Poutine a présenté ses excuses à Aliyev pour ce qu'il avait appelé un incident tragique, mais n'a pas reconnu la responsabilité de l'État russe. En mai dernier, Aliyev a quant à lui finalement décidé de ne pas assister aux célébrations du 80e jour de la victoire en Russie. Voilà, des tensions importantes qui apparaissent entre l'Azerbaïdjan et la Russie. Est-ce que c'est le signe aussi que la chute ou l'affaiblissement de l'Iran change la dynamique de la région? J'en ai parlé la semaine dernière avec la question notamment autour de l'Arménie. Et précisément, nous apprenons ou nous pensons peut-être apprendre, parce que c'est encore à prendre avec des pincettes, informations incertaines qui circulent sur les réseaux sociaux. L'Arménie, la Turquie et l'Azerbaïdjan seraient parvenus à un accord sur le couloir de Zanguezour, selon des affirmations donc, qui circulent sur les réseaux sociaux. Aucun pays n'a fait part, à l'heure où j'enregistre, Canada fait l'objet d'observations sur ces rumeurs. C'est Caucasus War Report qui a fait des affirmations sur la plateforme X, déclarant l'Arménie, la Turquie et l'Azerbaïdjan sont parvenus à un accord sur le couloir de Zanguezour lors de la récente visite du Premier ministre Nikol Pachinian en Turquie. En vertu de cet accord, la Russie n'aura aucun contrôle sur le corridor, étant en fait complètement écarté de cet accord. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de Nikol Pachinian, c'était déjà un signe très important du shift d'influence dans la région, qui était allé rencontrer Erdogan la semaine dernière. Eh bien voilà, ce serait un fruit très important finalement. D'ores et déjà, Erdogan arriverait à obtenir par la diplomatie ce qu'il n'aurait ainsi pas allé chercher par la guerre, et qui est encore une fois sa volonté d'établir le corridor en direction de l'Asie centrale, ce qui est la grande ambition turque. L'Azeri Times a également rapporté sur X, je cite, « Il y a de multiples rapports selon lesquels la Turquie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie sont sur le point de conclure un accord sur le corridor de Zanguezour, ce qui pourrait marginaliser l'influence de la Russie dans le Caucase du Sud. Et si ça marginalise l'influence de la Russie, ça marginalise aussi l'influence de l'Iran, naturellement, hein, qui est l'autre grand allié. Encore une fois, j'en avais parlé la semaine dernière. » Si ce corridor est effectivement mis en place, il existerait un accès sans restriction et une liaison donc entre l'Asie centrale et l'Europe par l'intermédiaire de la mer Caspienne et de la Turquie. Cette évolution pourrait accroître le volume des échanges commerciaux de la Turquie, non seulement avec l'Azerbaïdjan, mais aussi avec l'ensemble de la région, et donc naturellement accroître considérablement l'influence turque, en direction de cet espace pan-turc, turcophone en Asie centrale. Je fais ici une petite pause pour souligner que ce bulletin gratuit n'est que le premier du mois et que les autres sont réservés aux souscripteurs selon les conditions disponibles sur Tipeee ou en suivant le lien en description ou en cliquant sur le bouton rejoindre sous cette vidéo. Le contenu gratuit ces derniers mois a entre 5 et 6 000 spectateurs permanents, c'est-à-dire qui regardent la totalité du contenu gratuit, mais dont un peu plus de 90% ne sont pas souscripteurs et ne font jamais de dons. Donc si vous appréciez mon travail et souhaitez qu'il continue, n'hésitez pas à faire un geste en soutien de la chaîne. Je poursuis avec ce mardi 24 juin, le chef d'état-major égyptien a accueilli au Caire Saddam Khalifa Haftar, commandant des forces terrestres de l'armée nationale libyenne et dirigé par son père Khalifa Haftar. J'ai parlé de Saddam Haftar et de son ascension fulgurante il y a quelques mois. Cette visite met fin à une période de tension liée à des divergences sur des questions régionales. Au ministère de la Défense égyptien, Saddam Haftar, accompagné d'une importante délégation militaire, a été reçu avec un protocole solennel incluant les hymnes nationaux et une garde d'honneur. Certains analystes égyptiens interprètent cet accueil chaleureux comme un signal adressé à Abu Dhabi, affirmant le rôle central du Caire dans le dossier libyen. Par ailleurs, l'Égypte s'inquiète pour la sécurité de sa frontière ouest, particulièrement depuis que le triangle frontalier avec la Libye et le Soudan est passé, il y a 2 semaines, sous le contrôle des paramilitaires soudanais en conflit avec l'armée. Je vous ai dit récemment que l'armée avait repris Khartoum, mais il y a d'autres endroits où, visiblement, ils avancent, notamment dans cette région. Cette situation préoccupe le Caire, qui redoute une déstabilisation de sa frontière et cherche à associer la Libye à ses efforts de sécurisation, surtout que jusqu'à présent, la Libye de Khalifa Haftar, ou la partie libyenne de Khalifa Haftar, soutient plutôt les forces de soutien rapide soudanaises, des Metti, auxquelles ils fournissent des armes, des munitions et du carburant, avec le financement d'Abu Dhabi, précisément, selon plusieurs rapports de l'ONU, alors que l'Égypte, elle soutient l'armée soudanaise et donc forcément se rapprocher de la Libye, c'est un moyen d'essayer de peut-être rééquilibrer la situation au Soudan et donc sécuriser sa frontière. En tout cas, ça renforce encore un petit peu plus sans doute la position de Khalifa Haftar et de sa famille, de son clan et notamment de son futur successeur, c'est-à-dire son fils Saddam, à la tête de la Libye de l'Est, de la Cyrénaïque. Au Sénégal, une nouvelle installation militaire française, la station d'émission interarmée de Rufisque, a été remise au Sénégal précisément, après celle cédée en mars et en mai. Cette décision s'inscrit dans la volonté du président Bassirou Diomaye Faye de rompre avec les politiques de ses prédécesseurs en mettant fin à la présence des troupes françaises. Selon un communiqué de l'ambassade de France au Sénégal, publié le 1er juillet, la station, utilisée depuis 1960 pour les communications sur la façade atlantique sud, a été officiellement transférée aux autorités sénégalaises. Selon un rapport de la banque Barclays, cependant, la dette publique du Sénégal, qui était évaluée à 99,7% du PIB en 2023 par la Cour des comptes du pays, a grimpé en réalité à 119% du PIB en 2024, ce qui fait du pays le plus endetté d'Afrique, l'un des trois, avec la Zambie et le Cap-Vert, à dépasser les 100% d'endettement. Cette augmentation de près de 20 points en un an, donc, a été qualifiée de fulgurante et alimente les inquiétudes sur la situation financière du pays. Le ministère des Finances a réagi en annonçant qu'un audit indépendant examinerait la dette publique de 2019 à 2024, tout en soulignant que les données actuelles manquaient de fiabilité. Par ailleurs, Bloomberg rapporte une chute de 9,1% de la valeur des obligations sénégalaises depuis janvier, c'est-à-dire encore plus que la baisse de la valeur des obligations ukrainiennes. Le prêt de 1,8 milliard de dollars accordé par le FMI quant à lui est en suspens dans l'attente d'une meilleure transparence sur les finances sénégalaises. Entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, peut-être une grande nouvelle, puisque sous l'intense pression diplomatique des États-Unis, les deux pays ont conclu un accord de paix, une première avancée dans le conflit complexe qui mêle tensions communautaires locales, priorités sécuritaires des voisins de la République démocratique du Congo, notamment le Rwanda et l'Ouganda. J'en ai parlé très régulièrement depuis un an et demi dans le bulletin, je pense. Et la compétition mondiale, naturellement, pour les minerais stratégiques abondants dans la région et auxquels les États-Unis doivent gagner un accès privilégié. Là où les initiatives de l'Union africaine et des organisations régionales avaient stagné, Donald Trump a réussi, lui, à progresser. Ce succès pourrait être consolidé d'ici fin juillet par une rencontre à Washington entre les présidents Paul Kagame du Rwanda et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, jusque-là antagoniste. Le traité, salué par le président américain Donald Trump comme une réussite de sa diplomatie, inclut des mesures pour garantir le respect de l'intégrité territoriale dans l'est de la République démocratique du Congo après l'offensive du groupe armé M23. Cependant, des voix appellent à la prudence concernant cet accord. Le conflit qui ravage l'est de la RDC depuis environ 30 ans est d'une telle complexité qu'il serait peut-être irréaliste de penser qu'un simple texte, même soutenu par Donald Trump, pourrait y mettre fin durablement. Ce mardi 1er juillet, à l'aube, 7 attaques simultanées ont visé l'ouest et le centre du Mali, menées par des djihadistes. L'armée malienne a rapporté des attaques coordonnées contre ses positions dans les localités de Kayes, Niono, Molodo, Sandaré, Nioro du Sahel, Diboli et Gogi. En milieu de journée, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, dont je parle régulièrement, a revendiqué l'offensive. Kayes, importante ville de l'ouest et berceau de nombreux maliens de la diaspora, a été directement touchée pour la première fois avec des assauts contre le camp militaire et deux commissariats. Le poste douanier de Gogi, situé à 90 km à l'ouest, près de la frontière sénégalaise, a également été la cible de tir. On part en Europe où mardi, les États-Unis ont annoncé la suspension de certaines livraisons d'armes à Kiev, invoquant des préoccupations sur l'état de leurs propres réserves de munitions, alors que la Russie accentue ses frappes contre l'Ukraine. Ce qui est assez inquiétant, parce que si c'était juste un signe d'apaisement envers Poutine de la part de Trump, encore on se dirait que ça peut être passager. Si c'est parce qu'ils ont vraiment peur pour leur stock, c'est encore plus inquiétant, parce que ça pose des questions sur la base industrielle de défense des États-Unis et son redémarrage qui devrait avoir commencé lui aussi depuis un moment. Cette décision priorise les intérêts américains, a expliqué Anna Kelly, porte-parole adjointe de la Maison-Blanche. Selon Politico et d'autres médias, les livraisons suspendues incluent des missiles antiaériens et des obus. Mercredi, le Kremlin a déclaré que cette réduction d'armement pour l'Ukraine pourrait accélérer la fin du conflit. Naturellement, les Russes sont très contents. De son côté, l'Ukraine, qui dit n'avoir pas reçu une notification officielle de Washington, a exhorté son allié à maintenir un soutien constant pour contrer l'invasion russe, convoquant le chargé d'affaires américain et soulignant que tout retard dans les livraisons d'armes encouragerait Moscou. Vladimir Poutine a déclaré que la Russie prévoit de réduire ses dépenses militaires au cours des trois prochaines années, en réponse à l'annonce de l'OTAN d'augmenter son budget de défense à 5% de son PIB. Selon Poutine, cette initiative de l'OTAN vise à soutenir le complexe militaro-industriel américain. Il a accusé l'OTAN d'être plus provocatrice que la Russie, faut de l'aplomb, s'interrogeant lors d'un sommet économique à Minsk en disant « qui se prépare vraiment à l'agression, eux ou nous ?» Cette annonce intervient alors que le Kremlin fait face à des inquiétudes économiques croissantes, j'en ai parlé la semaine dernière. Le ministre du Développement économique, Maxime Reshetnikov, a averti d'un risque imminent de récession, tandis qu'Elvira Nabiullina, gouverneur de la Banque centrale, a pointé un ralentissement de la croissance dû à l'épuisement des ressources économiques. Est-ce que donc tout ceci est vrai et que Vladimir Poutine, poussé par la récession, est contraint d'essayer de diminuer le poids de l'armée dans le PIB parce que c'est pas tenable? Ou bien est-ce que c'est de l'esbrouve juste pour faire genre, regardez, nous, eux, ils augmentent les budgets, nous, on les baisse, c'est bien la preuve qu'on n'est pas agressif. Est-ce que c'est peut-être les deux? Je ne sais pas. En tout cas, je rappellerai que les difficultés véritablement économiques et le risque de faillite, finalement, c'est souvent un accélérateur et ça provoque l'escalade chez l'impérialiste revanchard. La France de Napoléon en 1805 était au bord de la ruine quand on s'est lancé à l'assaut de l'Allemagne et de l'Autriche. Et il en allait de même de l'Allemagne lorsqu'elle s'est lancée sur la Pologne en 1939. Donc, voilà, ça accroît le risque, on va dire. Vendredi, les députés allemands ont approuvé par 440 voix contre 135 la suspension du droit au regroupement familial pour les migrants bénéficiant d'une protection subsidiaire, dans le cadre du durcissement de la politique migratoire impulsée par le chancelier Friedrich Merz. Ce statut concerne les personnes autorisées à rester en Allemagne en raison de la dangerosité de leur pays d'origine sans être reconnues comme réfugiées. Fin mars, plus de 388 000 individus, majoritairement syriens, étaient sous ce régime. La nouvelle loi suspend les dispositions de 2018 qui autorisaient jusqu'à 1 000 proches par mois à rejoindre ces migrants. Pas 1 000 proches par migrant, hein. Je pense que c'était la masse qui était traitée par l'administration allemande. Les réfugiés reconnus ou ayant obtenu l'asile selon la Convention de Genève ne sont pas concernés par cette mesure. À l'Union européenne, et ça fait suite un peu à mon dernier live auquel je vous renvoie pour le détail, notamment toute l'affaire autour de Safe, une motion de censure contre Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a été déposée par l'extrême droite, on va dire la droite dure au Parlement européen, qui a rassemblé les signatures de 74 députés, eurodéputés, c'est-à-dire 10% des 720, c'est le chiffre qu'il faut, illustrant l'influence croissante donc de la droite dure après les élections européennes de 2024. Avec presque autant d'élus que le PPE, 26% des sièges, l'extrême droite, donc on va appeler ça comme fait la presse, reste fragmentée en trois groupes, portés par l'eurodéputé roumain Georges Pipéréa, soutenu par Georges Simion, figure de l'extrême droite roumaine battue à la présidentielle. La motion reproche à la Commission son manque de transparence, notamment sur les SMS échangés en 2021 entre von der Leyen et le PDG de Pfizer lors des négociations sur les vaccins anti-Covid, scandale ravivé par l'affaire de l'instrument Safe, hein, récemment, encore une fois je renvoie à ma dernière émission, et les craintes qu'il y ait à nouveau de manque de transparence sur l'attribution de ces fonds. Au sein du groupe conservateur et réformiste européen, dirigé par les élus italiens de Giorgia Meloni, le soutien à la motion est en revanche loin d'être unanime. Les Italiens s'opposent même à cette initiative, craignant qu'un vote favorable ne compromette la vice-présidence qui a été obtenue par leurs compatriotes d'extrême droite, Raffaele Fitto. Côté Rassemblement national, seuls deux eurodéputés, Virginie Geron et Thierry Mariani, ont co-signé la motion, témoignant de leur propre indépendance au sein de leur groupe. Je pense qu'il a très peu de chances que ça passe, cependant, parce que je rappelle, je le disais l'autre jour, il faut 2/3 des votes. Quand on voit la difficulté à voter une motion de censure chez nous à la majorité simple, alors les 2/3, très compliqué. Et il n'est pas impossible que ça enfonce en plus un coin idéologique entre la droite dure et la droite normale du PPE au sein du Parlement européen. Puisque le PPE, malgré tout, reste attaché, pour une raison curieuse, à von der Leyen, puisque c'est son parti d'origine, encore une fois, et c'était elle un peu le chef de file de ce parti lors des dernières élections. Ce qu'il y a de conservatrice, mais enfin, c'est comme ça. La Commission européenne a été confrontée à 8 motions de ce type dans son histoire, sans jamais aboutir, comme en France, les motions de censure ne passent pas. En 1999, l'exécutif présidé par le luxembourgeois Jacques Santer avait démissionné collectivement avant qu'une motion de censure ne soit votée, après un scandale qui avait été lié à la commissaire française Edith Cresson à l'époque. Mais néanmoins, c'est intéressant parce que cette affaire sort en même temps qu'il risque d'y avoir l'engagement d'une procédure judiciaire devant les cours de justice de l'Union européenne par Roberta Metsola au nom du Parlement européen. Donc voilà, c'est quand même intéressant, d'autant plus qu'on voit de plus en plus sortir dans la presse d'articles du genre de celui du Parisien, une personnalisation du pouvoir jamais vue, von der Leyen, l'hyper-présidente de la Commission exaspère à Bruxelles, etc. Et très intéressant, j'ai vu un article dans le Figaro qui commence comme ça, François Bayrou n'est pas le seul à connaître la menace, Ursula von der Leyen a fait l'objet d'une motion de censure, etc. Là aussi je renvoie à mon dernier live, mais encore une fois, ça souligne, et les gens, enfin, c'est difficile de passer à côté, l'écho qu'il y a entre ce qui se passe en France et ce qui se passe à l'échelle européenne, ce qui est tout à fait logique si vous êtes habitué à ce que je raconte, vous savez en quoi ça, d'où ça vient. Lundi 30 juin, le Conseil des ministres italien a adopté un décret autorisant 497 550 entrées de 2026 à 2028, donc environ 165 000 en 2026, pour des emplois non saisonniers, indépendants ainsi que saisonniers dans l'agriculture et le tourisme. Selon le gouvernement de Giorgia Meloni, déjà 450 000 permis avaient été accordés de 2023 à 2025, portant le total à près d'un million, nette augmentation comparée aux 70 000 2021 et 75 700 de 2022. Bien que la lutte contre l'immigration clandestine soit une priorité de la dirigeante de Fratelli d'Italia depuis son élection en 2022, son gouvernement promeut l'immigration légale pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans un pays vieillissant marqué par un déclin du taux de natalité. Donc en fait, vous apercevez que la différence, l'extrême droite en fait ne réduit pas l'immigration, simplement elle la transforme en immigration légale. Donc, quelle est la différence entre la gauche qui fait naturalisation? On peut se poser la question au bout d'un moment et on peut se demander dans quelle mesure c'est pertinent, dans quelle mesure effectivement cette immigration, où l'Italie espère trouver suffisamment d'immigration et suffisamment qualifiée pour que ça fasse tourner efficacement son économie. Je me pose la question. Samedi 28 juin, environ 140 000 personnes ont défilé en Serbie pour exiger des élections législatives anticipées, maintenant la pression sur le gouvernement après plus de 7 mois d'un mouvement de contestation porté par les étudiants à travers le pays, dont je vous ai parlé régulièrement, mais ça permet de faire le point. C'est pas aussi important que les manifestations qu'il y a eu il y a quelques temps, mais en fait ça montre que le mouvement est toujours là. Mardi 1er juillet, la Pologne a annoncé la mise en place de contrôles temporaires à ses frontières avec l'Allemagne et la Lituanie à partir du 7 juillet. Selon le Premier ministre polonais Donald Tusk, cette mesure vise à limiter, voire réduire au minimum, les flux migratoires non contrôlés et les va-et-vient des migrants. Depuis septembre 2024, l'Allemagne a rétabli des contrôles temporaires à sa frontière avec la Pologne, ce que Varsovie reproche à Berlin, accusant l'Allemagne de repousser les migrants vers son propre territoire. Vendredi 27 juin, le président américain Donald Trump a déclaré mettre un terme aux négociations commerciales avec le Canada, qualifiant la taxe canadienne sur les géants numériques de coup direct et flagrant contre les États-Unis. En raison de cette taxe inacceptable, nous mettons fin à toutes les discussions commerciales avec le Canada avec effet immédiat, a-t-il annoncé sur Truth Social. Cette taxe, qui est entrée en vigueur le 30 juin, cible les grandes entreprises technologiques qui réalisent un chiffre d'affaires mondial annuel supérieur à 1,1 milliard de dollars canadiens et des revenus annuels au Canada dépassant 20 millions de dollars canadiens. Trump critique également l'Union européenne pour une taxe similaire, l'utilisant comme argument dans les négociations commerciales avec le bloc. Très intéressant que il y a le même problème avec le Canada et l'Union Européenne, alors même qu'en sein de l'Union Européenne, il y en a qui ont, dans leur rêve humide, qui se disent que si Trump veut annexer le Canada, peut-être que l'Union Européenne pourrait le faire à sa place. À mon avis, c'est pas une très bonne idée. Taïwan a ajouté Huawei Technology Co. et Semiconductor Manufacturing International Group, SMIC, c'est l'acronyme SMIC, à sa liste noire des produits stratégiques, mesure visant à bloquer l'exportation de technologies critiques vers ces entreprises chinoises, ce qui pourrait freiner le développement des solutions d'intelligence artificielle en Chine. Les équipements visés, tels que les machines de lithographie avancées, systèmes de dépôt de matériaux et chambres de gravure, sont essentiels pour fabriquer des semi-conducteurs destinés à l'IA, un secteur où Huawei et SMIC cherchent à concurrencer les géants américains comme Nvidia et Intel. Ce n'est pas la première fois que les obstacles sont imposés aux entreprises technologiques chinoises. En 2020, sous la pression des sanctions américaines, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., le fameux TSMC, leader mondial des semi-conducteurs, avait cessé de fournir Huawei. Cette nouvelle décision représente un coup dur pour la Chine compte tenu du rôle clé de TSMC dans la production de puces IA haut de gamme utilisées par des acteurs comme Nvidia, Qualcomm ou AMD, et de ses investissements massifs pour consolider sa domination. Huawei et SMIC devront donc redoubler d'efforts pour développer leurs propres puces, alors que la Chine intensifie depuis plusieurs années ses investissements publics et privés pour réduire sa dépendance avec Taïwan. Apparemment, ils y sont parvenus en partie, mais leurs semi-conducteurs ne sont pas encore au niveau de ceux de Taïwan, donc ça pose quand même des problèmes. Et tout ceci en même temps, on se doute qu'il y a aussi un peu de pression américaine là-dessus, notamment sur la gestion de TSMC, on le sait. Les Américains les ont forcés à venir produire sur le territoire américain l'année dernière. Et tout ceci rappelle quand même un peu, encore une fois, vous savez, je dis souvent que la méthode Trump contre la Chine, c'est la ressuscité de la stratégie Reagan contre l'URSS. Tout ceci donc rappelle la méthode de Reagan sur l'embargo, sur les technologies de forage qu'il avait imposées à l'URSS pour empêcher l'URSS d'arriver à mieux exploiter sa rente pétrolière et donc se financer, qui est une des causes des difficultés soviétiques qui ont mené à la dislocation de l'URSS. Enfin, vendredi, l'Inde a exprimé son souhait de trouver une solution durable à son différend frontalier de longue date avec la Chine lors d'une rencontre avec son homologue chinois Dong Jun, en marge de la réunion des ministres de la Défense de l'Organisation de la Coopération de Shanghai à Qingdao. Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, a souligné l'importance de maintenir la paix le long de la frontière indo-chinoise. Selon le ministère indien de la Défense, les deux ministres ont discuté en détail des efforts pour restaurer une certaine normalité dans les relations bilatérales. Singh a insisté sur la nécessité de résoudre les tensions par une feuille de route structurée, basée sur un engagement continu et une désescalade. Je pas sûr que les Chinois seront encore tout à fait ouverts à la question. Je suis, comme vous le savez, j'en ai parlé récemment, j'avais fait une émission, je pense que les frictions vont se maintenir entre les deux pays. Voilà ce que je pouvais vous dire cette semaine, c'est un bulletin assez copieux malgré tout, donc je ne m'attarde pas. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux formats, vous laissez pas faire.